si comme moi vous attendez ce moment toute la semaine? Si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son? Attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt. Il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le contexte difficile que nous traversons. Je voudrais quand même mettre au point une légende urbaine. On parle de cravate, on parle de boutons de manchette. Eh bien non, puisque en raison effectivement des mesures qui nous sont imposées, ça serait plutôt jogging et claquettes chaussettes à la maison, voyez-vous. Oui, j'essaie de vous faire sourire un peu parce que la vie n'est pas facile en ce moment. Vous êtes confinés chez vous, vous pouvez très très peu sortir pour une durée de 15 jours et probablement même au-delà, au vu du nombre de gens qui se sont rués dans les gares pour rejoindre de la famille, pour rejoindre des amis et mieux vivre, ce qui peut se comprendre aussi. Ce confinement, le virus risque pourtant bel et bien encore de circuler. On est ensemble tout de même jusque 16h, une émission un petit peu particulière. Aujourd'hui, évidemment, pas d'agenda puisque tous les événements culturels sont suspendus. Une émission avec des interviews exclusivement enregistrées par téléphone. D'ailleurs, je vous prie par avance d'excuser la qualité de certaines interviews qui n'ont pas été réalisées dans les conditions habituelles. On a dû également remonter en catastrophe certaines interviews qui parlaient d'événements à venir et qui sont fatalement annulées en raison de cette épidémie de coronavirus. Et puis, il y aura également un petit peu de musique pour vous détendre. Et la semaine prochaine, eh bien, on sera également là au rendez-vous avec des idées, des rediffusions, les meilleures sessions live et puis plein de choses à retrouver. On ne vous abandonne pas. C'est le mot d'ordre à entendre. On ne vous abandonne pas, que ça soit dans cette émission ou sur notre antenne. Les programmes sont simplement perturbés, bouleversés. Et merci de faire passer le mot autour de vous que nous sommes bel et bien présents à l'antenne. Alors au programme, aujourd'hui deux interviews. Le groupe Lefkes, l'interview d'Anne Claire, la chanteuse, pour nous parler de cette pop planante à découvrir en musique et en interview aujourd'hui. Un peu de musique également, avec des chansons et des sessions issues des dernières émissions de Maintenant J'y vais. Et en deuxième partie d'interview, l'interview de l'association Archipop qui met en valeur le cinéma patrimonial, le cinéma familial, le cinéma d'entreprise, etc. etc. Le film amateur dans toute sa splendeur, avec de nombreuses archives. Ils viendront présenter leur concept et également comment consulter leur film. Vous savez tout. Alors je vous propose de partir en musique avec Maintenant J'y vais, découverte du groupe Lefkes. Aujourd'hui, notre coup de cœur. Voici Chanson pour un voyageur solitaire sur Radio Plus. Très belle journée et bon courage.
à l'instant, chanson pour un voyageur solitaire de l'FKS sur Radio Plus.
Julien prépare ses questions.
Tu veux apprendre des choses qu'on ne te dit pas sur Wikipédia ?
Maintenant j'y vais. L'interview.
Et en ces temps un peu moroses où l'on vous demande de rester chez vous, autant le faire avec de la bonne musique. Je viens de vous en faire découvrir un extrait. Coup de cœur aujourd'hui avec le groupe l'FKS et sa pop planante en français. Un EP intitulé « La femme approximative » est sorti au début du mois de décembre dernier et que je vous propose donc de continuer à découvrir en interview, cette fois-ci avec Anne-Claire, la voix de l'FKS. Salut Anne-Claire.
Salut Julien.
Déjà, est-ce que je prononce bien ?
Oui, tu prononces très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prononcer, mais toi, tu as tout de suite pris le coup.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, première question, parce qu'il faut se soucier de tout le monde en ce moment. Comment ça va ? Parce qu'on imagine que quand on est artiste, qu'on vit donc aussi en cherchant à donner du bonheur aux gens, les temps sont peut-être un petit peu plus difficiles.
Ouais, bah, en ce moment, tu sais, nous, on est à Paris, donc on se prépare à être confinés, quoi. Donc on a fait des courses, on a fait le stock de livres, on est en train de réfléchir à la musique qu'on va pouvoir enfin écouter, qu'on avait mis dans des listes depuis des mois. Voilà, on essaie de relativiser et puis d'être raisonnable, de rester chez soi et puis de se préparer au mieux, voilà, ce qui arrive. Mais oui, on essaie de rester positif, quoi.
Rester positif, il le faut, et puis se dire aussi, comme je le dis depuis plusieurs jours à ceux qui nous écoutent, qu'une fois que tout ce bordel sera fini, eh bien, il faudra aller remplir les salles de spectacle à ras-bord, il faudra aller applaudir les artistes en concert, parce que tout le monde aura besoin et de se changer les idées, et puis en ce qui concerne les artistes, eh bien, d'avoir de quoi travailler, de quoi vivre aussi, tout simplement, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier, et ça je m'adresse à ceux qui nous écoutent, et puis à nos décideurs aussi qui réfléchissent à tout ça et qui réfléchissent aussi à quelles solutions trouver pour que tout le monde soit à l'aise, notamment financièrement. Et bien voilà, faut oublier personne dans le lot. Le message étant passé, on va pouvoir faire connaissance donc avec ce duo, toi et Philippe, qui formaient donc l'FKS. Alors l'FKS, c'est qui et c'est quoi son histoire ?
Oula, alors l'FKS, c'est une longue histoire, c'est une histoire qui est assez intéressante. Avant, je jouais dans un groupe qui s'appelait Knilovox. J'ai joué dans ce groupe pendant quelques années. On faisait du rock en français. Et puis un jour, malheureusement, le groupe s'est séparé. Mais moi, j'avais vraiment envie de continuer la musique, mais je savais pas encore comment ni sous quelle forme. Et voilà, juste après la séparation du groupe, je suis partie en vacances en Grèce pour me changer les idées, pour réfléchir. Et puis, dans une rue de l'Efkès, donc sur l'île de Paros en Grèce, j'ai croisé par hasard Fabrice Lucchini, qui est un acteur que j'aime beaucoup. J'avais vu ses spectacles, etc. Donc j'étais assez interloquée quand je l'ai aperçu. Et puis la rue était déserte, il n'y avait que nous, donc on a commencé à discuter. Et puis voilà, il y a eu une conversation assez loufoque qui s'en est suivie, mais qui m'a donné envie en fait de vraiment me donner à fond dans la musique et de recommencer quelque chose seul. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai créé, je ne vais pas dire un groupe parce qu'à l'époque j'étais toute seule, mais voilà, j'ai lancé mon nouveau projet qui s'appelait donc l'FKS. Au départ, c'était plutôt folk en anglais. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais qu'on ne faisait pas du tout avec Knilovox parce qu'on faisait que du français. Et puis voilà, donc j'ai sorti une petite démo de 5 titres qui s'appelait Runes, où il y avait 5 titres en guitare-voix en anglais. Et puis j'ai fait quelques scènes, j'avais remporté le premier tour du Fallon Fest, qui a après malheureusement été arrêté, c'était juste après les attentats en fait du 13 novembre à Paris, donc l'industrie du spectacle se portait déjà pas très bien à l'époque, donc voilà, le festival a été interrompu et donc j'ai pas pu aller au bout. Et puis après, voilà, je me suis produite sur quelques dates toute seule, et puis mon ami Philippe, en fait, que j'avais rencontré quelques années avant, est venu me voir un soir à un concert à l'international, et puis il m'a dit, écoute, moi je suis intéressée pour travailler avec toi, j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Je le connaissais, je savais que c'était quelqu'un qui était vraiment très doué dans la musique. Il avait eu un groupe en Allemagne avant qui s'appelait Fertiglos, et il a fait beaucoup, beaucoup de scènes. Il était signé dans un gros label. Et il a fait beaucoup de dates, il a fait une première partie pour Pink, des dates assez importantes. Puis lui aussi, son groupe s'était séparé et puis il avait envie de recommencer. Donc on est reparti ensemble. Et après quelques titres, on avait produit un titre ou deux en anglais. Puis on avait aussi produit un titre en français, L'Astre Invisible. On a fait écouter tout ça autour de nous et puis tout le monde nous a dit « Non mais le français, c'est quand même c'est quand même vraiment, vraiment bien. Donc voilà, on s'est regardé, on s'est dit bon, allez, let's go, on repart pour une pop en français, un truc vraiment poétique. Et puis après, voilà, on s'est vu assez souvent chez lui en home studio, et puis on a composé tout l'EP de La Femme Approximative qu'on a terminé au coin du feu dans une maison isolée du Perche en novembre 2018. On est resté 400 jours dans le Perche et puis on a fini ça. Il faisait très très froid, c'était assez éprouvant, mais en fait c'était aussi très beau et très magique. Voilà, Philippe en parle encore, il dit que toutes ses écharpes, tout ce qu'il avait emmené sent encore le feu de cheminée. Donc voilà, ça nous a marqué à la fois au niveau olfactif et puis à la fois au niveau émotionnel. C'était une très belle aventure.
Beaucoup de souvenirs, j'imagine bien. Et du coup, aujourd'hui, dans un monde de la musique qui est toujours un petit peu compliqué depuis quelques années, dont les habitudes ont changé, ça représente quoi de sortir un disque ?
Oula, ça c'est une bonne question. C'est vrai que l'industrie a énormément changé. Ça représente, déjà, c'est vraiment différent au niveau de la production. Maintenant, on peut faire énormément de choses soi-même, en home studio, chez soi. Donc nous, on a tout fait tout seul. Et ensuite, on a juste sorti l'EP de façon numérique. Donc on a assuré une promotion numérique qui est vraiment différente pour le coup de ce qui se faisait il y a peut-être 10 ou 15 ans. Et voilà, aujourd'hui, les artistes sortent énormément de titres, des singles, après des EP. Il y a une production qui est énorme. Donc... C'est toujours assez excitant, quoi, d'avoir un titre qui sort et d'avoir un EP qui sort et de voir comment il est reçu. Mais voilà, on sait que derrière, il faut continuer à produire parce que c'est le marché comme ça aujourd'hui, et puis aussi parce que on a envie de donner plus et puis de faire toujours des nouvelles choses.
Ouais, et on espère en tout cas que le climat va vite revenir à la normale pour que y ait des dates de concert, pour que y ait des choses à prévoir. Alors, je sais que vous n'allez pas rester inactif durant cette période de confinement. J'ai vu passer il y a quelques heures effectivement des petits messages sur les réseaux sociaux. Vous allez faire effectivement des petites reprises, des petits moments musicaux pour partager avec votre public, c'est ça ?
Ouais, c'est ce qu'on s'est dit avec Philippe, que c'était aussi l'occasion, en fait, malgré tout, de faire partager notre inspiration, nos sources d'inspiration littéraire, la poésie. Moi, j'ai beaucoup de poésie, de littérature. Et puis aussi, je suis chez moi, j'ai ma guitare, j'ai mon ordinateur, donc je peux quand même continuer à faire des petites reprises, voire à écrire des nouveaux titres. C'est pas impossible, hein, en guitare-voix, donc... Le but, c'est aussi que la musique continue à vivre malgré la fermeture des salles, malgré les arrêts des concerts. Voilà, nous-mêmes, on avait des dates qui devaient se programmer. Là, en mars, on a tout mis en stop pour le moment. Donc, on a une prochaine date en avril. On espère qu'elle pourra être tenue. Mais en attendant, il faut continuer à faire vivre notre musique et à communiquer avec les gens, à leur dire qu'on est à l'arrêt, mais en même temps, on est toujours là et qu'on continue à créer. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de continuer à créer pendant une période comme celle-ci. Donc voilà, c'est ce qu'on va continuer à faire, partager et créer.
Oui, et là je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, parce que toutes ces mesures s'appliquent aussi à nous qui animons ces émissions. On a malheureusement dû beaucoup reporter d'interviews, mais ça n'est qu'un report. C'est-à-dire que voilà, on n'abandonnera rien, nous non plus, on n'abandonnera rien de nos engagements. Et on va revenir une fois que le petit bordel sera passé. Il faut faire avec, il faut se serrer les coudes, enfin en gardant quand même la distance d'un mètre, mais ça c'est une autre histoire. Alors, cette EP qui s'appelle La Femme Approximative, beaucoup de mélanges dans une musique pourtant très très planante, les mélodies qui nous emmènent là aussi. Qu'est-ce qui a inspiré musicalement cet album, enfin cette EP, pardon?
Alors il y a beaucoup d'inspiration, donc je vais peut-être pas tout te lister, mais moi j'écoute beaucoup de rock, j'écoute beaucoup de pop aussi, c'est un peu mes deux inspirations principales. Parfois on pense que c'est antithétique, entre guillemets, qu'on peut pas être un fan hardcore de rock et en même temps écouter Beyoncé et Rihanna. En fait, moi, depuis toujours, si. Philippe, par exemple, c'est pareil, on est des grands fans de The National, on est des grands fans de plein de groupes anglais, de rock anglais, de rock américain, mais en même temps, voilà, des fois on est dans la voiture et puis on met un vieux titre de Justin Bieber, donc il y a aussi, en fait, voilà, on écoute un peu plein de choses différentes. Et je pense qu'on avait envie de faire cette espèce de mash-up entre toutes nos inspirations, de faire une pop qui était assez lumineuse, assez très pop quoi, mais tout en gardant un esprit vraiment mélancolique qui est plutôt un esprit rock pour le coup, en gardant un esprit assez mélancolique, des textes assez ciselés, assez poétiques et des mélodies assez fortes. Donc ça c'est notre premier coup d'essai, la femme approximative, mais on espère qu'on va encore affûter notre style dans les mois à venir avec des nouvelles compos. Voilà, l'inspiration de la femme approximative, c'est d'avoir beaucoup de poésie, beaucoup de littérature, et puis voilà, cette culture rock et en même temps cette culture pop qui se rencontrent pour créer l'univers de Lefkès.
Beaucoup d'histoires de gueules cassées ou c'est moi dans ce disque?
De gueules cassées, alors dis-moi.
Ben, des gens qui, enfin des histoires de gens qui ont des parcours un petit peu difficiles ou du moins l'expression d'une vie pas toujours facile. C'est un peu comme ça que j'ai perçu en écoutant certains morceaux.
Oui, bah alors ça c'est un peu, alors je comprends pas parce qu'en fait je suis quelqu'un d'assez joyeux dans la vie, mais par contre j'ai jamais réussi à écrire une seule chanson joyeuse. Tu vois, j'ai toujours écrit que des titres, que des trucs super mélancoliques, assez tristes. Voire carrément déprimant. Donc là, je me suis un peu améliorée quand même. J'ai évité la déprime totale. Mais oui, je pense qu'en fait, la musique, très égoïstement, c'est aussi un exutoire. C'est là où tu mets tes sentiments un peu les plus sombres. Et moi, clairement, quand j'écris, c'est un peu ma thérapie, quoi. J'écris tous les sentiments les plus lourds qui peuvent me passer par la tête. Et l'objectif, c'est toujours de les mettre en forme d'une façon qui soit assez belle pour que les autres puissent aussi les écouter et puis se les réapproprier. Mais oui, j'aime bien parler des choses qui sont dures, j'aime bien parler des choses qui sont difficiles, j'aime bien aller creuser des sentiments qui sont complexes, qui sont pas toujours très faciles à apprivoiser. Donc c'est vrai que voilà, j'ai une écriture qui parle seulement quasiment de gueules cassées, comme tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gueules cassées en fait. Il y a énormément de gens en fait qui ressentent ces sentiments. Donc voilà, je trouve que souvent il y a un peu, dans la musique actuelle, il y a souvent un appel à être joyeux, à danser, à faire la fête. Bon, moi c'est pas trop mon trip. Moi j'aime bien la musique qui me parle et qui me parle au plus profond et qui fait ressortir des sentiments auxquels j'ai pas accès tous les jours. Donc moi c'est ça que je vais chercher dans la musique et c'est ça que j'ai envie d'écrire. Donc voilà. Donc les gueules cassées sont mes amis.
C'est aussi pour ça que t'as voulu écrire en français, pour vraiment que le message soit compris et touche le plus grand nombre ou pas du tout?
Ben en fait moi à la base dans la vie je suis agrégée d'anglais, donc l'anglais est ma quasiment ma seconde langue, tu vois, je la parle quasiment plus que le français au quotidien. Et donc au début, je m'étais dit, bon, ça va pas être trop difficile pour moi d'écrire en anglais, j'ai au moins un avantage sur beaucoup de gens. Et en fait, quand j'ai écrit en anglais, j'étais super contente de mes textes, tu vois, j'avais fait écouter à des anglophones qui me disaient que c'était vraiment super, que c'était super beau et tout. Sauf que personne ne comprenait rien, quoi, dès que je chantais ces textes un peu avec des métaphores en plus, tu vois, t'imagines en anglais. Il y a plein de gens qui me disaient c'est super beau, mais en fait, je comprends rien. Donc, bon, je me suis dit, ok, je pense que là, ça va pas être possible. Et puis, en fait, j'avais un titre qui datait d'Ex Nihilovox, qui s'appelle Histoire courte, que j'aime beaucoup, qui est un titre vraiment, vraiment simple. Il y a deux accords dans la chanson, donc tout repose sur le texte. Et à chaque fois, je jouais cette chanson à la fin de mes concerts. Et tout le monde venait me voir à la fin et me parlait pas du tout de mes titres en anglais. Tout le monde me disait, ah, mais la chanson que t'as jouée à la fin, elle est incroyable, elle est vraiment magnifique, tu devrais écrire davantage en français. Puis en fait, j'en ai un peu marre d'entendre ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est vrai que, voilà, le français, c'est ma langue, j'aurais jamais la même sensibilité, quoi qu'il arrive, peu importe ma maîtrise de l'anglais, j'aurais jamais la même sensibilité par rapport à l'anglais que par rapport au français. Et je pense que ça, il faut en prendre conscience, c'est que quand c'est pas notre langue native, on pourra bien sûr écrire des choses qui sont grammaticalement correctes dans une langue étrangère, mais il n'y aura jamais cette affinité, il n'y aura jamais cette sensibilité qui fait que la chanson, elle donne des frissons et que le texte est magnifiquement ciselé. Donc voilà, donc je suis revenue au français en me donnant ça quoi, comme objectif, d'écrire des textes qui sont vraiment, vraiment ciselés, vraiment poétiques. Et voilà, je suis assez contente. C'est un bon choix, je pense que je m'épanouis beaucoup plus en fait à écrire en français.
Eh bien, on va justement parler de ces textes qui figure sur l'EP La femme approximative. Je vais tout simplement t'inviter à les présenter un par un en une phrase ou deux. On commence par la chanson qu'on a écoutée pour lancer ce chapitre qui était consacré à l'FKS, chanson pour un voyageur solitaire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson ?
Chanson pour un voyageur solitaire, c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'ai écrit il y a assez longtemps. C'est un titre que j'ai été chercher dans mes tiroirs. C'est un morceau que j'avais écrit, je me souviens, un jour de pluie en plein mois de décembre, juste avant de partir en Allemagne. Donc j'avais parti en voyage. Et je sais pas, en fait, j'avais envie d'écrire une chanson qui allait m'accompagner, qui pourrait m'accompagner dans tous mes voyages solitaires. Et voilà, c'est une chanson que j'ai écrite très rapidement et qui parle vraiment de cette espèce de mélancolie qu'on ressent quand on est seul à voyager, quand on a la tête collée contre la vitre du train ou dans l'avion, qu'on regarde par le hublot. C'est une mélancolie vraiment très, très basique, en fait, j'ai envie de dire, mais à la fois très universelle. Et qui, en même temps, que j'aime beaucoup parce que on va toujours quelque part, mais sans jamais vraiment savoir où on va, finalement. On y va. Enfin, ce sont des destinations, mais qui, en fait, n'ont pas de but en elles-mêmes. On erre un peu de ville en ville et sans vraiment savoir où aller. Et moi, c'est toujours un peu le sentiment que j'ai eu au moment où je voyageais beaucoup plus que maintenant. Et j'avais toujours l'impression d'aller d'un point à un autre, être un peu tout le temps jet-lagué et dépaysé, etc. Et puis au final, de pas vraiment savoir bien ce que je faisais dans la vie et où j'allais. Donc voilà, cette chanson pour un voyageur solitaire, elle est... Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'écrivent des petits messages ou des petits mails pour me dire je suis dans une gare, je ne sais où dans le monde, j'écoute une chanson pour un voyageur solitaire, il fait nuit, je suis tout seul, ça me réconforte, je me sens moins seul. Bah voilà, bah, c'est un peu l'objectif de cette chanson, que les gens se sentent moins seuls quand ils le sont. C'est un peu ça.
La lumière du soir.
Alors la lumière du soir... Je sais pas par où commencer pour la lumière du soir. Bah, la lumière du soir, c'est une chanson. Moi, j'ai toujours eu. J'ai eu longtemps un rêve, c'était de pouvoir partir à n'importe quel moment et de disparaître. Tu vois, cette espèce de sentiment où tu te dis tiens, ça serait quand même incroyable de pouvoir du jour au lendemain, partir et puis disparaître et puis recommencer une vie quelque part. Évidemment, je ferai jamais un truc pareil, mais c'est une sorte de. Sorte de fantasme, quoi, un peu fictionnel. Et la lumière du soir, c'est ça. C'est l'idée de vraiment de tout claquer, de partir, de partir recommencer quelque part. Et voilà, elle est très métaphorique aussi, cette chanson. Hein. Elle part dans la lumière du soir, dans sa robe de joyau. Elle est à la recherche de transcendance, en fait. Elle a une vie qui n'est pas très transcendante. Et puis, un jour, elle s'en va. Puis, elle va chercher quelque chose de mieux ailleurs. Voilà, c'est ça, la lumière du soir. C'est la recherche de la transcendance.
On parle de nomade, nomade au pluriel d'ailleurs, je précise, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Oui, alors au début, il était au singulier, et puis Philippe, il m'a dit que lui aussi se sentait nomade, donc du coup, on l'a mis au pluriel, pour l'histoire. Mais alors, nomade, c'est un titre que j'avais écrit il y a quelques temps aussi, et qu'on a repris, et que Philippe a complètement transformé, pour en faire quelque chose d'un peu plus pop, il était très sombre au début. Aujourd'hui, il est assez lumineux, ce titre, j'aime beaucoup. Nomade, voilà, il est un peu dans la même veine que Chanson pour un voyageur solitaire. C'est cette idée d'être nomade, d'aller un peu partout dans le monde, et en même temps tout en pensant, en ayant des souvenirs, des réminiscences de l'enfance, de la jeunesse, qui reviennent, donc en n'étant jamais vraiment à l'endroit où on est, c'est-à-dire qu'on est physiquement quelque part, dans une ville, un avion, et en même temps on est sans cesse ramené. Son histoire, une histoire qui est ancrée dans un lieu, dans une maison, avec des gens, avec des parents, avec des frères, des sœurs, etc. Donc voilà, nomade, c'est un peu cette nostalgie, à la fois la nostalgie du voyage et à la fois la nostalgie du passé, la nostalgie de la vie qui s'écoule. Quelque chose comme ça.
Avant-dernière chanson que l'on va présenter, le monde infini.
Ouais, alors le monde infini, c'est une chanson que j'adore. C'est une chanson que j'avais écrite en anglais. D'abord, qui s'appelait Life Below Ground. Et puis, on était super contents de la musique, on aimait vraiment ce qu'on avait fait dessus. Et du coup, j'ai réécrit tout le texte en français, j'ai tout adapté en français. Et ça, c'est vraiment pour le coup un titre très, très dystopique. J'aime beaucoup, en fait, moi, les dystopies et les utopies dans la littérature. Et j'ai souvent essayé de les transposer dans la musique. Et ça, pour le coup, voilà, le monde infini, c'est ça. C'est tout simplement la personne qui, la narratrice, quoi, la personne qui chante, c'est un peu une femme des entrailles de la terre, quoi, qui accueille une réfugiée qui vient de notre monde, qui a fui les catastrophes climatiques, qui a fui la violence. Et tout, voilà, et toutes les horreurs qu'on peut trouver dans notre monde. Et voilà, et elle lui explique que sous la terre, il y a un monde que personne ne connaît, mais qui est dans lequel il n'y a aucun des travers qui existent dans le monde réel. Et toute la chanson est comme ça. En gros, il y a un dialogue entre ce monde infini et puis cette femme qui arrive esselée, qui arrive dans ce monde infini depuis la terre où tout est en train de trembler et puis d'être dévasté. Donc c'est un peu à la fois très dystopique dans le sens où ça annonce une espèce de catastrophe qui se passerait dans notre monde et en même temps assez assez onirique parce que il y aurait quand même un monde où on pourrait se réfugier quelque part où tout ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, Le Monde Infini.
Et on termine avec une chanson qui connaît aussi son petit succès en termes d'écoute, que l'on va écouter d'ailleurs à l'issue de cette interview et je te laisse donc présenter L'Astre Invisible.
Ouais, alors L'Astre Invisible, c'est un morceau, c'est le premier morceau en français que Philippe et moi on a écrit. J'avais fait une première version de ce titre avec un texte en français qui était assez simple. Et en fait, c'est le titre qui a le plus plu. L'Astre Invisible, c'est un titre qui est assez poétique, qui parle d'une femme qui est cette fois perdue dans la ville. Et qui a ce sentiment encore une fois de solitude alors qu'elle vit dans une ville qui est surpeuplée. Donc là, on peut imaginer facilement une ville comme Paris, une grosse capitale, quoi. Et elle est assez désabusée, voilà, elle a un sentiment de solitude assez accru. Mais quand vient la nuit, quelque chose se passe, elle retrouve... Alors, on ne sait pas si elle fantasme ou si elle retrouve vraiment quelqu'un de réel, mais en tout cas, elle retrouve quelqu'un sur les toits de la ville. Et elle s'imagine, funambule... contemplant le reste de la ville avec cette personne qui, du coup, donne un sens à sa vie et rend sa vie un peu moins monotone. Donc voilà, L'Astre Invisible, c'est un titre qui est à la fois un peu romantique quoi, et en même temps très, très métaphorique. C'est un titre très aérien, moi, je trouve, à la fois dans la composition et dans le texte. Donc voilà, c'est notre titre préféré, je pense, sur cette EP. Et voilà, il plaît pas mal aux gens. On a sorti un remix de cette chanson d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez écouter tout ça sur Spotify ou ailleurs.
Ouais, les plateformes d'écoute, effectivement. Il est sorti physique aussi, ce disque, ou pas encore? Ou
non,
c'est peut-être même pas à l'heure du jour d'ailleurs?
Non, il est sorti qu'en numérique et je pense pas qu'on fera de sortie physique. On n'en a pas prévu en tout cas, parce que là, on est déjà en train de travailler sur des nouveaux titres. Donc ça c'était vraiment notre coup d'essai la fin approximative parce qu'avant on n'existait pas du tout et voilà c'était pour dire au monde voilà ce qu'on fait, voilà qui est l'EFKS, voilà notre musique mais voilà on est déjà en train de travailler sur des nouvelles choses plus abouties, plus recherchées, plus l'EFKS en fait finalement donc je pense pas qu'il sortira en physique.
En tout cas, l'EFKS est à suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez l'EFKS Band, vous allez les retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Également, il y a d'ailleurs plein de choses qui vont arriver dans ces jours où on va un petit peu être contraint de rester chez nous. Et on va donc retrouver l'EFKS sur tous ces réseaux avec plein de surprises qui vont arriver. Anne-Claire, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Et puis, on écoute donc L'Astre Invisible sur Radio Plus.
Dans une impasse, tout me lasse. c'est à toi là. Maintenant j'y vais. Le live sur Radio Plus.
Suivre des doigts le mouvement du papier, sentir sous sa paume les mots s'enflammer, décrire leurs courbes délicatement, les retenir prisonniers, peser leur sens, les trouver plus lourds que l'encre d'un bateau, mais aussi léger que la plume d'un oiseau. Les voir avec rage s'exprimer comme la foudre, retentir comme les battements d'un tambour. En quelques mots se développe un papillon qui virevolte sur le timbre d'une enveloppe, il s'envole et m'accoste, ses effets le déportent, comme une lettre à la poste. Feindre la surprise quand nos regards se croisent, être attentif à chaque tournure de phrase, s'épeler l'un l'autre quand le téléphone sonne, s'appeler encore dans les rues qui résonnent, écrire au tableau nos prénoms côte à côte, comme les écoliers sur le banc des écoles, sur l'écorce d'un arbre ou les ponts de Paris, les réciter encore comme une poésie. En quelques mots se développe un papillon qui virevolte sur le timbre d'une enveloppe, il s'envole et m'accoste, ses effets le déportent comme une lettre à la poste.
J'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
Le point sonore des Lilas, Serge Gainsbourg. Je suis le point sonore des Lilas, le gars qu'on croise mais qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider disait. Et dans le bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, il paraît qu'il n'y a pas de sommetier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague je vois les vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laissez ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route et coûte coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et à quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue et de se faire un petit trou, un dernier petit trou. J'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Vous avez quelques minutes ? Ça tombe bien. Julien aussi. Maintenant j'y vais, le zoom.
Et à présent, dans cette émission, on va parler de cinéma. Mais alors, pas le cinéma que vous imaginez forcément, celui qui vous fait voyager au travers de blockbusters dans les salles de cinéma. Non, on va parler plutôt de films intimistes, de films qui traduisent aussi une époque et certains modes de vie. C'est avec l'association Archipop, un projet initié en 2003 qui a pour but de collecter, sauvegarder, documenter et valoriser les archives cinématiques, et audiovisuelles. Les films de famille, les films d'entreprise sur toute la région des Hauts-de-France. Et on avait envie de vous parler de ce projet. Et pour cela, eh bien, j'ai invité Alison Lemière, chargée de communication d'Archipop et de production média. Bonjour Alison.
Bonjour.
Alors, j'ai fait très brièvement l'historique d'Archipop. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus et nous expliquer par exemple ce qui a mené à la création de cette association ?
Alors, donc, le projet a débuté en 2003, donc sur la Picardie dans un premier temps. Donc voilà, c'est vraiment de la collecte, de la sauvegarde, de la documentation et de la valorisation, comme vous l'avez dit. Et il s'est étendu ensuite progressivement sur les Hauts-de-France. Donc on collecte voilà des films de famille, des films amateurs, des films institutionnels. Donc c'est un patrimoine qu'on réunit. Voilà, donc ce patrimoine, il participe après à la connaissance d'une histoire régionale vivante et accessible à tous. On veut vraiment partager cette mémoire. Donc aujourd'hui, notre fonds représente 12 000 supports collectés, soit 1 600 heures, et donc 616 déposants. Et les principales thématiques sont représentatives de l'histoire sociale de notre région, c'est-à-dire la famille, l'éducation, le travail, les loisirs, l'économie et l'industrie.
Du coup, si je fais un résumé que l'on peut faire lorsque l'on s'intéresse à la région des Hauts-de-France et par rapport à toutes les thématiques que vous venez d'évoquer, ça veut dire qu'on retrouve des films sur la mine, sur la colombophilie, qui était aussi un passe-temps très apprécié de notre région et notamment des mineurs, sur ces grands bals et ces grandes réunions familiales aussi qu'il pouvait y avoir, comme on a pu connaître de l'époque de nos parents et même plutôt au-delà de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents.
C'est ça, on a aussi des images sur le carnaval de Dunkerque, des images sur les fêtes, les intervilles par exemple dans le Vimeux. C'est vraiment très varié, c'est plusieurs époques, donc ça commence à partir des années 1920 jusqu'aux années 2000.
Donc effectivement, on balaye tout un pan d'histoire. Est-ce que vous avez eu en main, sans peut-être avoir la possibilité de le restaurer, de les exploiter, des choses qui dateraient, des images qui dateraient d'avant 1920 du coup ?
Alors non, parce qu'en fait, pour vous expliquer rapidement l'histoire du cinéma amateur, donc la naissance donc, du cinéma professionnel, ça date de 1895 avec les Frères Lumière, mais ce n'est qu'après, donc 30 ans plus tard, que le cinéma amateur est né en fait. Donc dans les années, enfin, vers 1922-1923. Avec la commercialisation de la première caméra portative, donc la caméra Pathé Baby, avec du 9,5 mm. Donc nous, on a des films voilà, qui datent qu'à partir de cette période.
Donc vous êtes vraiment effectivement au tout début de l'histoire. Hein. Et qu'est-ce qui s'est dit un jour pour que vous ayez envie de compiler tous ces films au sein d'Archipop?
Alors.
Longue histoire, j'imagine.
Pardon?
Longue histoire, j'imagine.
Oui, une longue histoire. Donc c'est François, donc le directeur de l'association, donc voilà, qui a eu envie en fait de redistribuer cette mémoire qui n'est pas, enfin c'est pas une mémoire, enfin un patrimoine qui est vraiment comment dire, un mémoire qui est vraiment connu et reconnu en tant que tel. En fait, peu de personnes connaissent l'histoire du cinéma amateur, et c'est vraiment une envie en fait, voilà, de se réapproprier l'histoire locale du territoire.
Alors comment est-ce que vous avez travaillé tout au long de ces années pour collecter les films?
Alors, donc la collecte. Donc nous, notre équipe est composée de 5 personnes donc, qui travaillent sur la collecte, la valorisation, l'inventaire, la sauvegarde, la conservation et la communication et la production média. Donc après, je vous parlerai. On a aussi deux chargés de mission qui travaillent sur des territoires spécifiques. Et donc voilà, donc l'équipe est composée de 5 personnes. Donc il y a une personne donc, qui est chargée de la collecte et donc des projets culturels. Donc cette personne chargée de la collecte et de l'inventaire donc, s'occupe donc de prendre contact avec les personnes qui veulent faire des dépôts. Mais nous aussi, on communique par rapport à ça. Par rapport à la collecte, donc on peut collecter dans le cadre de projets de territoire, c'est-à-dire qu'on fait des partenariats avec des collectivités, des villes ou des services d'archives pour collecter sur des territoires précis. On peut aussi dire qu'on collecte sur des thèmes précis. Donc voilà, il y a aussi dans le cadre de projets politiques de la ville, donc on a un projet donc, qui est réalisé à Béthune. Et on a aussi un autre projet à Chenilly-Éternay.
Donc effectivement, une répartition sur tout le territoire des Hauts-de-France. Je rappelle hein, que Archipop est basé à Beauvais, donc effectivement en Picardie, mais toujours dans notre région de France. C'est vrai qu'on est encore un petit peu sur les anciennes régions. Alors vous travaillez principalement avec des collectivités, mais aujourd'hui le particulier qui retrouverait dans les greniers et dans les caves des films d'archives amateurs, comment est-ce qu'il peut vous contacter justement?
Alors, donc, le particulier peut nous contacter. Donc, on a un site internet, donc c'est archipop.org, ou on a aussi une adresse mail, donc contact@archipop.org, ou encore un numéro de téléphone, donc je ne sais pas si je peux le donner.
Bien sûr.
Donc, le 03 44 22 60 55. Donc, voilà, il suffit de nous contacter. Comme ça, on peut discuter ensemble des films dont dispose la personne. On en discute et on discute ensemble des modalités de dépôt. Donc la personne peut donc nous déposer ses films dans un premier temps. Nous, on peut donc effectuer une sauvegarde numérique selon l'intérêt des contenus. Puis donc cette personne peut les laisser en dépôt chez nous. Donc nous les conservons dans des locaux adaptés. Ou alors cette personne peut les récupérer ou cette personne peut en faire don à Archipop. Donc voilà, il y a 3 options.
Voilà, donc effectivement, toujours aussi la possibilité de garder une trace si on n'a pas envie de se séparer de sa bobine ou de sa pellicule. Alors, ces films hein, qui sont collectés, quelle est leur destination? On avait relayé un de vos événements, c'était un ciné-concert, si ma mémoire est bonne. Donc effectivement, il y avait une mise en scène sous forme de spectacle hein, avec de la musique. Mais est-ce que, par exemple, on peut consulter librement ces films sur un site internet?
Alors, donc, sur notre site internet, donc dans la rubrique manufacture, vous pouvez donc avoir un aperçu de tout ce qu'on réalise. Donc on a fait par exemple un mapping dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle scène Est de la Somme à Nesle. Il y a aussi des images donc, des ciné-concerts qui a eu lieu le 30 janvier dernier au Palace de Lillière. On a également réalisé des émissions pour la Web TV, des séries télé, des avant-programmes, des productions extérieures. Enfin, c'est des programmes assez variés. On peut voir donc ces extraits ou parfois des petites pastilles sur la manufacture. Après, nos projections ne sont pas sur le site internet, mais en fait, juste après qu'elles aient lieu, on met en place un replay pour que toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là puissent les revisionner tranquillement chez elles.
Qui est du coup en accès un peu privé pour ceux qui assistent à vos événements.
Voilà, pour qu'elles puissent avoir le temps, parce qu'il y a souvent des détails en fait, qu'on n'a pas le temps de voir pendant la projection. Enfin, des choses, parce que par exemple, si c'est un territoire que ces personnes ont côtoyé à la même époque, voilà, elles ont sans doute envie de faire des arrêts sur image pour revoir certains détails.
Vous avez des retours justement des personnes qui assistent à vos événements sur ce que ça peut provoquer comme émotion de revoir cette époque, ou peut-être pour les plus jeunes d'apprendre des choses qu'ils n'ont pas pu connaître parce que ça n'existe plus depuis qu'ils sont nés?
Oui, on a beaucoup de retours, notamment lors des journées du patrimoine. On a fait une projection à Boulogne-sur-Mer. On a pu projeter des images inédites, c'était en partenariat avec Normandie Images. Donc c'est une association qui fait les mêmes choses que nous, mais en Normandie. Et donc on a pu projeter leurs images sur Boulogne-sur-Mer, et c'est des images que certaines personnes n'avaient jamais vues donc depuis qu'elles avaient été prises. Et une personne est venue me voir à la fin et m'a dit: vous voyez l'appartement qui brûle à un moment, c'était mon appartement. Donc j'avais 2 ans à l'époque et ça lui a fait vraiment énormément d'émotions.
Ouais, on imagine effectivement que ça peut créer beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors on l'a dit, hein, de très nombreux films, de très nombreuses heures de pellicules. C'est quoi l'objectif pour Archipop dans les mois à venir sur cette année 2020? Est-ce que c'est collecter encore plus d'archives? Est-ce que c'est monter un gros projet avec un ou plusieurs gros projets que les archives existantes? Expliquez-nous.
Donc voilà, collecter de plus en plus d'archives donc dans le cadre des projets de territoire. Donc là, on a un projet avec Amiens Métropole dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, par exemple. Voilà, on se concentre sur des gros projets, mais on tient quand même à être présent sur la plus grande partie des territoires. Pour nous, c'est vraiment important et de ne pas faire de différence entre les territoires urbains et ruraux.
Donc effectivement, l'objectif, toujours faire connaître les Hauts-de-France et leurs archives et surtout leur histoire. Alors on va faire un dernier appel à ceux qui nous écoutent. Comment faire de nouveau pour transmettre ces films à Archipop, Alison Lemière?
Alors, donc voilà. Donc pour transmettre les films, vous pouvez donc nous contacter par mail, donc à contact@archipop.org. Par téléphone au 03 44 22 60 55 ou via notre site internet www.archipop.org.
Alison Lemière, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargée de communication et de production média au sein d'Archipop à Beauvais.
Merci à vous.
Maintenant j'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
Et avec toutes nos excuses pour ces problèmes de son que vous avez pu rencontrer durant cette interview enregistrée par téléphone, quelques crépitements et quelques buzz qui peuvent nuire à la bonne qualité sonore, avec encore une fois toutes nos excuses. Ça y est, c'est la fin de cette émission. Maintenant j'y vais. On se retrouve très très bientôt, je l'espère, dans ce contexte extraordinairement compliqué. On ne vous abandonne pas, évidemment, hein, durant cette période où on est invité à rester chez soi. Vous allez retrouver des rediffusions, les meilleures sessions live, acoustiques, réalisées dans cette émission, des coups de cœur musicaux que l'on est en train de vous préparer. Portez-vous bien, restez heureux, restez chez vous surtout, et on se retrouve très vite dès que tout va mieux. Ciao, bye bye.